la simplicité et le contentement, le travail et le repos, la soumission aux autorités, la guerre et la paix, le mariage et la sexualité et la justice sociale. Et tous ces messages sont disponibles en ligne. Donc, si vous avez envie de les écouter, si vous n'étiez pas là, je vous encourage peut-être à les trouver sur le site web de l'Église. Mais aujourd'hui, nous terminons cette série avec un thème qui est lié à plusieurs de ce qu'on a déjà vu, c'est le respect de la vie, et plus particulièrement le respect de la vie humaine. En parlant de la sexualité, nous avons vu à quel point c'est un privilège pour nous d'être invités à participer au projet de Dieu pour ce monde en donnant la vie à un autre être humain. Et lorsque nous avons parlé de la dignité humaine, de la justice sociale et de la guerre et de la paix, nous avons vu l'importance de se respecter et de s'aimer et de s'aider les uns les autres. Nous qui sommes tous créés à l'image de Dieu. Mais dans tout cela, nous n'avons pas creusé la notion de la vie en tant que telle, du miracle que c'est d'être un être vivant, d'avoir le souffle de vie. Et non pas juste la vie corporelle, comme un animal, mais la vie humaine. La conscience, l'âme, l'esprit, toutes ces choses qui nous placent juste un peu en dessous des anges dans la structure de l'univers. Selon la lettre aux Hébreux, nous sommes juste un petit peu en dessous des anges. À la création en Genèse, ce n'est que les êtres humains qu'on lit « Dieu insuffla un souffle de vie dans ses narines et l'homme devint un être vivant ». La vie humaine est unique dans toute la création, car nous avons reçu ce souffle qui fait de nous des êtres qui peuvent choisir, qui doivent choisir comment nous allons vivre. C'est une vie pleine de possibilités et pleine de dangers aussi, surtout si on se détourne du Créateur. Mais dans tous les cas, c'est un miracle. C'est un miracle qui dépasse tous les autres miracles de la création, cette vie que Dieu nous donne. Voilà la vérité fondamentale qui lance nos réflexions aujourd'hui, le miracle de la vie humaine. Et je ne vous cache pas que cette vérité va nous amener vers quelques propos qui pourraient être difficiles pour certains ce matin. Quelques questions précises sur l'éthique chrétienne. En particulier, les questions de l'avortement d'un côté et du suicide de l'autre, y compris l'euthanasie ou le suicide assisté, comme on dit. Ces questions sont à la fois très pertinentes pour notre culture occidentale en ce moment, et très, très personnel. Et donc, comme pour beaucoup de ces sujets que nous avons abordés pendant ces dernières semaines, il faut reconnaître dès le début que ce sont des choses qui peuvent soulever une immense douleur quand on en parle. L'éthique chrétienne n'est jamais une théorie abstraite, comme un échange qu'on pourrait avoir dans un cours de philo. C'est pas ça que nous faisons. L'éthique chrétienne, ça touche notre vie, très personnellement. Et selon votre vécu, l'un ou autre, l'autre de ces propos, l'avortement ou le suicide peut vous remplir de tristesse, ou de colère, ou de honte même, pour plein de raisons. Et si c'est votre cas ce matin, j'aimerais vous rassurer que ce message ne cherchera pas à multiplier vos souffrances, que ce soit par la condamnation ou par l'insensibilité. Ce n'est pas à notre place de condamner quelqu'un pour son passé. C'est Jésus lui-même qui dit « Je ne suis pas venu pour condamner le monde, mais pour le sauver. » Et nous, ses disciples, nous n'oserions pas faire ce que notre maître n'a pas voulu faire. Cela dit, je dois dire aussi que nous avons une responsabilité de parler honnêtement de la vérité que Dieu nous expose dans sa parole. Ça ne sert à rien de fuir la vérité parce qu'elle est difficile. C'est tellement mieux d'y faire face, de laisser la douleur faire son travail en nous, de laisser Dieu, le grand chirurgien de notre âme, inciser là où il faut inciser et puis restaurer là où il faut restaurer. Que l'Éternel nous aide à recevoir sa parole ce matin. Seigneur, nous t'invitons à nous parler. Nous t'invitons à travailler en nous, à nous transformer. Nous t'invitons à restaurer là où il faut restaurer. Ouvre notre cœur à toi. Que nous puissions avoir ta paix. Que nous puissions te voir clairement. Au nom de Jésus. Amen. Qu'est-ce que la Bible dit alors par rapport à la vie humaine et par rapport à ces pratiques de plus en plus présentes dans le monde, l'IVG et le suicide? Déjà, tout au début de ce message, je dois vous dire que ce que nous allons trouver pour que vous ayez une idée d'où nous allons. Et au final, c'est tout simplement que la vie humaine est sacrée. Et donc la Bible ne nous laisse pas l'option ni de l'avortement, ni du suicide. Ces choses ne sont pas acceptables à Dieu. Autrement dit, elles sont des péchés. Et pourtant, nous devons aussi être très clairs dès le début que ni l'un ni l'autre de ces choses ne peut nous séparer de l'amour de Dieu si nous avons mis notre foi en Christ. En Christ, il y a toujours de l'espoir. Il faut commencer là. Alors, pour comprendre ce que la Bible en dit et comment vivre à sa lumière, je propose qu'on considère en fait trois thèmes ce matin et ce que la Bible en dit sur chacun. Ceux de la vie, de notre cœur et de la souffrance. Autrement dit, la vie sacrée, la vie corporelle et la vie et la souffrance. Nous avons déjà abordé brièvement le premier, la vie. Parce qu'en Genèse 2, c'est Dieu qui donne le souffle de vie à l'être humain. Et cette vie est sacrée. Puisque les êtres humains sont créés à l'image de Dieu, la vie humaine est sacrée. Genèse 9, 6 dit « Si quelqu'un verse le sang de l'homme, son sang sera versé par l'homme, car Dieu a fait l'homme à son image. » L'homme, la vie humaine est sacrée. La vie que nous avons en nous n'est pas comme les autres qui se trouvent dans la nature, dans la création. L'être humain est différent. Et soyons donc clairs, cette différence commence à la conception. La vie humaine ne commence pas à la naissance, mais à la conception. Ce qui veut dire en fait que techniquement, nous avons tous à peu près 9 mois d'âge de plus que ce que nous disons habituellement. Ce qui n'est peut-être pas une bonne nouvelle pour ceux qui souhaitent être un peu plus jeunes qu'ils sont et pas plus vieux. C'est un peu un choc de se rendre compte qu'on a 40 ans au lieu de 39, par exemple. C'est juste un exemple. Mais évidemment, je plaisante un peu. Je ne suggère pas que nous changions tous la date où nous fêtons notre anniversaire. Mais cette vérité est quand même une vérité sérieuse. Parce qu'aussi miraculeuse que fut ta naissance, le moment de ta conception l'était même plus. Car c'était à ce moment-là que Dieu t'a créé. avec l'ADN que tu as toujours. Et tout le potentiel en toi, tout était présent de ce moment-là. Lisons le psaume 139. Psaume 139, versets 13 à 16. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le ventre de ma mère. Je te loue de ce que je suis, une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et je le reconnais bien. Mon cœur n'était pas caché devant toi lorsque j'ai été fait dans le secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Je n'étais encore qu'une masse informe, mais tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient inscrits tous les jours qui m'étaient destinés, avant qu'un seul d'entre eux n'existe. Quelle vérité merveilleuse! Dieu te connaît depuis le début. Comme notre sœur a prié ce matin, Dieu nous connaît. Tous les petits détails de notre vie depuis le début, il nous connaît. Chacun de tes jours, avant qu'un seul d'entre eux n'existe, et chaque détail de ton corps et de ton âme était tissé par Dieu lui-même dans le ventre de ta mère. La science moderne est merveilleuse. Par la grâce de Dieu, nous comprenons des choses maintenant qui étaient bien hors de notre portée, il y a 20 ans même. Un mètre d'ADN dans chacun de nos 10 billions de cellules. Un mètre d'ADN dans chacun de nos 10 millions de cellules. 10 billions de cellules. Ce qui fait plus d'un milliard de kilomètres d'ADN dans ton corps. Tu t'en rends compte? Quel miracle! Et nous pouvons maintenant voir des images d'un enfant dans le ventre de sa mère depuis les premiers moments de la conception. C'est impressionnant. Je me souviens de la première fois que j'ai vu ça à la télé quand j'avais à peu près 7 ou 8 ans. Je savais que j'étais en train de regarder un miracle devant mes propres yeux. C'était grâce à la technologie moderne, ce qui était beaucoup moins moderne à l'époque qu'elle était maintenant. Qu'elle est maintenant, mais c'était grâce à cette technologie que j'ai pu voir de mes propres yeux ce miracle. Et pourtant, ce que je voyais était déjà décrit dans la parole de Dieu il y a 4000 ans, dans les psaumes. Je voyais Dieu en train de tisser un être humain devant mes yeux, comme dit le psaume 139. Cette vie, ta vie est sacrée, car c'est Dieu qui te l'a donnée. C'est lui qui t'a tissé. C'est lui qui connaît tous tes jours. Et la vie des autres est également sacrée. Que ce soit l'enfant qui n'est pas encore né, qui grandit dans le ventre de sa mère, ou la vie d'une personne âgée vers la fin de sa vie sur terre, la vie humaine est sacrée et précieuse aux yeux de Dieu. C'est Dieu qui la donne et Dieu qui la reprend. Il nous dit en Exode 32, verset 39, « Voyez donc que c'est moi qui suis Dieu, qu'il n'y a pas d'autre Dieu que moi. C'est moi qui fais vivre et mourir, qui blesse et guérit, et personne ne peut délivrer de ma main. » La vie vient de Dieu, et c'est lui qui la reprend. Alors, cela n'est pas forcément facile à accepter. C'est jamais facile de se rendre compte que nous ne sommes pas Dieu. Mais c'est ça la base. C'est Dieu qui donne la vie, c'est Dieu qui la reprend. Et nous ne sommes pas Dieu. Nous n'aimons pas nous soumettre à l'autorité. Surtout lorsqu'il s'agit de quelque chose d'aussi compliqué et parfois difficile que la vie. Et lorsque c'est quelque chose qui touche notre propre cœur. Car notre cœur, dans un sens, c'est nous. C'est la manifestation physique de notre identité. Et c'est vrai, notre cœur est une partie essentielle de notre identité. C'est pour ça que Jésus promet. Ah, j'ai mis le mauvais verset sur l'écran ou sur ma feuille. Ça doit être... Alors, c'est peut-être Deutéronome au lieu d'Exode, mais en tout cas, si quelqu'un le trouve, vous pouvez me signaler. Alors, c'est plutôt Deutéronome. Oui, Deutéronome 32, verset 39. C'est Dieu qui donne la vie et c'est Dieu qui la reprend. Et quand il s'agit d'une vie de notre cœur, c'est tellement personnel parce que tout ce qui se passe par rapport à notre cœur, c'est extrêmement personnel, c'est extrêmement intime. Et c'est vrai que même bibliquement, notre cœur est un aspect essentiel à notre identité. C'est pour ça que Jésus promet que nous, comme lui, nous serons ressuscités physiquement, corporellement. Nous aurons un cœur physique comme le sien, un cœur qu'on peut toucher, une version transformée du cœur que nous avons maintenant, qui garde même les signes de cette vie, comme les cicatrices qu'il a reçues pour nous à la croix. Notre cœur n'est pas sans importance. Comme enseignent certaines philosophies grecques et certaines églises même, comme si Dieu n'avait créé que âme et esprit au lieu de corps, âme et esprit. Si Dieu nous a créés avec un corps, et s'il va ressusciter notre cœur, ça veut dire que notre cœur est important. Et comme nous l'avons vu quand nous avons parlé de la sexualité, tout est lié, cœur, âme et esprit. L'être humain est un ensemble. Quand Dieu nous donne le souffle de vie, il le donne à l'ensemble. Et donc ça se comprend que nous le trouvions parfois difficile de soumettre notre cœur à Dieu, car notre cœur, c'est nous. Notre cœur nous est important et il n'y a rien de plus difficile à donner à Dieu que soi-même. Comme nous avons chanté, je te donne tout. Mais est-ce que vous donnez votre cœur à Jésus? Ou est-ce que vous donnez juste votre âme, entre guillemets? Si vous ne donnez pas votre cœur, vous ne donnez pas votre âme, parce que ces choses ne se divisent pas. Et ne soyons donc pas surpris que notre culture nous enseigne que nous pouvons faire ce que nous voulons avec notre cœur, parce que c'est notre propre cœur. Personne ne peut le toucher. Mais la vérité biblique est que mon cœur, mon âme, mon esprit, ils appartiennent tous à Dieu, à celui qui m'a donné la vie. Et c'est encore plus vrai pour nous, les chrétiens, qui ont maintenant le Saint-Esprit en nous. Nous allons lire 1 Corinthiens 6, versets 19 à 20. Tout le chapitre vaut la peine, mais nous allons prendre le temps pour lire versets 19 à 20, 1 Corinthiens 6. Ce chapitre parle de notre vie corporelle. Et au verset 19, nous lisons, « Ne le savez-vous pas, votre cœur est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu. Vous ne vous appartenez pas à vous-même, car vous avez été racheté à un grand prix. Rendez donc gloire à Dieu dans votre cœur et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. » Il faut étudier la grammaire, « appartiennent ». Ça renvoie aux deux, cœur et esprit. Ils appartiennent à Dieu. L'argument qui dit donc qu'on peut avorter un enfant parce qu'il s'agit d'un choix concernant son propre cœur, il ne tient pas. Pour deux raisons, en fait. D'abord, parce qu'au minimum, comme nous l'avons vu sous le premier point, dès qu'il s'agit d'une grossesse, il ne s'agit plus que du cœur de la femme, que de sa vie, parce que maintenant il s'agit de deux corps et de deux vies. Bien sûr, ces deux vies sont liées et les deux cœurs sont liés. Mais ça ne signifie pas que la vie de l'enfant n'est pas une vie humaine, n'est pas une vraie vie, et que son cœur n'est pas un vrai cœur. Dès sa conception, cette vie est une vie humaine. Et deuxièmement, cet argument qui dit qu'on peut faire ce qu'on veut avec son cœur ne tient pas parce que, quoi qu'il en soit, c'est un mensonge de se dire « c'est mon cœur ». Non. Je suis désolé, ça peut être une vérité difficile, mais bibliquement, nous appartenons à Dieu, cœur, âme et esprit. C'est lui qui décide ce que nous pouvons faire avec ce cœur qu'il nous a donné. Alors, avant de parler des implications de ce fait pour la question du suicide, soyons honnêtes par rapport à l'IVG. L'avortement d'un enfant. Selon les statistiques, 33% des femmes en France auraient une IVG au moins une fois dans leur vie. Il est donc très probable qu'il y a quelqu'un ici ce matin, probablement plusieurs, qui ont fait ce choix. Et certainement plusieurs qui connaissent bien quelqu'un qui l'a fait. Soit avant de devenir chrétien, soit après. Parce que le fait de devenir chrétien ne veut pas dire qu'on fait forcément les bons choix tout de suite. Et là, je parle autant des pères que des mères. Un père a autant de responsabilités vis-à-vis d'un enfant qu'une mère. Et si l'IVG est un si grand problème dans notre société, c'est autant la responsabilité des hommes que des femmes. Si on met ce fardeau sur les femmes, ce n'est pas juste. Et dans tous les cas, pour ceux qui ont vécu l'avortement d'un enfant, dans tous les cas, cette décision et la situation qui mène à cette décision, c'est jamais facile. Au contraire, c'est presque toujours une énorme souffrance dans la vie de tous ceux qui sont impliqués. Et ça veut dire deux choses. D'abord, pour ceux qui ont eu cette expérience, ce genre de message, aujourd'hui, va forcément multiplier les souffrances, même si ce n'est pas le but, parce qu'il vous oblige d'y repenser et de réfléchir à la réalité de ce qui a été fait. J'en suis bien conscient. Et je n'aime pas penser qu'un message que je donne augmente la souffrance d'un frère ou d'une sœur. Mais comme nous l'avons déjà dit, la guérison ne viendra jamais si on ne fait pas face à ce qui s'est passé. Mais si on y fait face, la guérison est possible. Si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de tout mal. L'Éternel Dieu, celui qui t'a façonné, qui connaît tous tes jours, il sera fidèle, non pas juste pour pardonner tes péchés, mais pour te purifier. On a du mal à croire, mais c'est sa promesse. Et je vous encourage à en parler avec quelqu'un. Un frère ou une sœur dans l'Église. Je suis là pour ça, ma femme est là pour ça, Jean-Serge est là pour ça. Nous sommes tous là pour ça, pour soutenir les uns les autres. Notre Seigneur est fidèle et juste pour nous pardonner et pour nous purifier de tout mal. Deuxièmement, pour ceux qui accompagnent une femme ou un couple dans cette situation difficile, suivons notre Maître Jésus, qui a su agir avec compassion et vérité dans chaque situation. Pensez à la Samaritaine au puits, par exemple, ou à la femme adultère, ou à l'apôtre Pierre qui a trahi Jésus même. À chaque fois, la vérité difficile n'a pas diminué sa compassion profonde pour la personne en face. Et ça ne vaut pas uniquement pour ceux qui ont vécu l'IVG et qui en souffrent maintenant. Ça vaut aussi pour ceux qui souffrent en raison d'une grossesse non désirée et qui ne savent pas quoi faire. L'une des histoires les plus tristes que j'ai jamais entendues était celle d'un jeune couple chrétien qui ont fait avorter leur enfant parce qu'ils savaient bien que c'était un péché d'avoir eu des relations sexuelles avant le mariage. Et ils avaient donc trop de honte pour dire à qui que ce soit que la fille était tombée enceinte. Ils anticipaient le mépris et la colère de la part de leur famille et de la part de leur église, à un tel point qu'ils ne voyaient aucune solution que l'IVG. Et c'est ce qu'ils ont fait. Alors, bien sûr, la décision finale était leur responsabilité. Et on ne peut pas dire que l'avortement était la faute de leur famille ou de leur église. Mais ça devrait quand même nous interpeller. Si les gens ne veulent pas nous parler de leur combat dans la vie, s'ils ne veulent pas nous confesser leurs péchés, est-ce peut-être parce qu'ils ont peur d'être jugés au lieu d'être aimés et d'être aidés? Sommes-nous la sorte de l'Église où les gens n'osent pas demander de l'aide parce qu'ils ont peur de parler de ce qui se passe? Ou sommes-nous une Église qui sait aimer avec vérité et compassion, comme notre Maître Jésus? Nous devons nous poser cette question. Les gens qui étaient en difficulté, ils étaient attirés par Jésus parce qu'ils voyaient en lui la vérité et une compassion profonde. Et c'est la même question que nous devons nous poser lorsque nous parlons du suicide, car le suicide est une situation qui est forcément entourée de douleur et de souffrance pour tout le monde qui est impliqué. Et si la Bible est claire que ce n'est que Dieu qui peut donner la vie et que ce n'est que Dieu qui doit le reprendre, nous devons être capables de répondre à ceux qui sont touchés par ce genre de situation avec vérité et compassion et amour. Et pour ça, il faut être clair. Le suicide est un péché. Car par cet acte, la personne essaie de décider pour soi-même quelque chose que Dieu seul doit décider. Et par cet acte, on prend une vie humaine, une vie sacrée, tout comme pour le meurtre. À la base, le suicide est un meurtre. Et le fait que c'est son propre cœur à lui, ça ne change rien. Car son cœur appartient à Dieu. En même temps, comme tout péché, et à la différence de ce qu'on peut entendre, il faut savoir que le suicide n'enlève pas notre salut. Parce que nous ne sommes pas sauvés par nos œuvres, mais par la foi. Des fois, on entend que le suicide ne peut pas être pardonné, parce que la personne n'aura pas le temps, évidemment, de se repentir après le péché. Mais ce n'est pas vrai. Car lorsque le chrétien se repent pour la première fois et met sa foi en Christ, c'est à ce moment-là que tous ses péchés sont pardonnés, passés et futurs. Et son nom est écrit dans le livre de vie. Dieu n'est pas assis sur son trône avec son grand livre de vie et une gomme afin de supprimer votre nom à chaque fois que vous péchez et puis le remettre lorsque vous pensez à demander pardon. Ce serait un faux évangile, comme Aristide nous a expliqué la semaine dernière, parce que ce serait un salut basé sur nos œuvres et non sur la grâce et la foi. Le vrai évangile, la vraie bonne nouvelle, est que dès que nous mettons notre foi en Christ, nous devenons enfants de Dieu et nous sommes sauvés à jamais. Nous sommes enfants de Dieu. Bien sûr, il faut continuer à confesser nos péchés et être assuré de son pardon afin d'avoir une bonne relation avec notre Père. Mais ce n'est pas parce qu'on perd son salut à chaque fois qu'on pêche et puis qu'on le regagne quand on le confesse. Alors, si le suicide n'enlève pas le salut de la personne, pourquoi ne pas le faire? Si on se sent tellement accablé qu'il nous semble que c'est la seule solution, pourquoi pas? C'est ça la question, finalement. Parce que, pour les mêmes raisons qu'on obéit à Dieu dans n'importe quel domaine de notre vie, non pas pour être sauvés, mais parce que nous sommes sauvés. Non pas pour être sauvés, mais parce que c'est bien pour nous, c'est bien pour les autres. Et c'est tout simplement ce que Dieu nous demande, c'est ce que Dieu nous commande. Tout ce que nous faisons a un effet sur nous-mêmes et sur les autres et sur notre relation avec Dieu. Et nous ne mettons pas fin à notre propre vie parce que notre cœur ne nous appartient pas. Il appartient à Dieu. Notre vie entière appartient à Dieu. C'est lui qui la donne, c'est lui qui la reprend. Alors, avant de passer à la conclusion, un dernier mot sur le suicide. Les choses qui font qu'une personne pense au suicide sont compliquées. Souvent, il y a un côté médical même. Et le temps nous manque pour entrer dans les détails ce matin. Mais il faut savoir deux choses. D'abord, par rapport à ce qu'on appelle le suicide assisté, quand on est à la fin de sa vie, soit parce qu'on vieillit, soit parce qu'on est malade, si dans ce genre de situation, on ne doit pas mettre fin à sa vie avant que Dieu la reprenne, on n'est pas obligé non plus de la prolonger artificiellement aussi longtemps qu'on peut. À un certain moment, si son cœur ne peut plus vivre sans être branché sur une machine ou sans prendre un médicament qui le détruit autant qu'il guérit, on peut très bien dire que Dieu est en train de reprendre cette vie et que c'est le moment de lui laisser faire. Quand on sait que c'est la fin, les croyants sont très souvent en paix parce qu'ils sont prêts à partir. C'est normal. Et arrêter un traitement, ce n'est pas du tout la même chose que de faire exprès pour mettre fin à sa vie parce qu'on ne la supporte plus. Mais ces décisions ne sont pas évidentes. Et c'est à ces moments-là où il faut vraiment la sagesse du Seigneur et le Saint-Esprit pour nous guider. Deuxièmement, en ce qui concerne le suicide en général, que ce soit motivé par une souffrance physique ou émotionnelle, si vous ou quelqu'un qui vous connaissez lutte avec cette tentation parce que la vie semble trop accablante, sachez que Dieu veut vous apporter sa paix, qu'il peut le faire et qu'il y a des gens, des frères et des sœurs et aussi des professionnels qui peuvent vous aider. Il ne faut pas, surtout pas, souffrir en silence. Je n'ai jamais été tenté moi-même de me suicider, mais je peux vous dire que je suis déjà arrivé au point où j'étais tellement déprimé, tellement accablé par ma situation, même en étant croyant. J'étais tellement accablé par ma situation que je souhaitais sincèrement ne pas avoir été né. Je sais que ce n'est pas exactement la même chose que vouloir se suicider, mais c'était quand même, à ce moment-là, l'ombre totale dans ma vie. Je cherchais Dieu et je ne le voyais pas pendant un moment. Et puis, petit à petit, j'ai trouvé de l'aide. Où l'aide m'a trouvé plus tôt. Et la lumière est revenue. Si tu vis ce genre de choses, ce genre de ténèbres, s'il te plaît, n'imagine pas que tu sois seul et n'imagine pas qu'il n'y a pas un monde en dehors de ta souffrance, qu'il n'y a pas une vie au-delà de ta souffrance, parce qu'il y a toute une éternité au-delà de ce que tu vois. Alors, avec ça, nous arrivons au dernier point. Brièvement, que dit la Bible par rapport à la souffrance? Car en fait, c'est souvent par le désir d'éviter la souffrance qu'on justifie les choses comme l'IVG ou le suicide assisté pour les malades, n'est-ce pas? On se dit, l'enfant va avoir une vie difficile, mieux qu'il ne soit pas né, qu'il n'arrive jamais au point où il souhaite ne pas être né. Ou si l'enfant est né, il va être handicapé, et donc mieux de ne pas naître. Où la famille va en souffrir. Et c'est pareil pour les malades. Soit ceux qui sont en phase terminale d'une maladie, soit ceux qui souffrent et qui ne voient pas de soulagement. Et si vous avez vécu ce genre de choses, d'avoir un proche qui finit ses jours lentement et en douleur, vous savez de quoi je parle. C'est extrêmement douloureux. Tout le monde souffre. Et parfois, si on est honnête, on avoue qu'on veut simplement que la souffrance soit terminée, même si ce n'est que la mort qui l'amènera. Même la malade, ou surtout la malade, le malade le veut des fois. De la perspective humaine, ça se comprend. Quand on souffre, on peut avoir l'impression que c'est la totalité de notre vie. La douleur ou la tristesse nous envahissent jusqu'au point où on ne pense qu'à lui échapper. Et humainement parlant, c'est normal. Pour vivre dans ce monde, nos instincts nous poussent à fuir de la peine et la douleur. Mais si Dieu avait une autre perspective sur la souffrance, s'il ne faut pas éviter la souffrance à tout prix, alors, soyons clairs, Dieu ne dit pas que la souffrance est une bonne chose en soi. Il ne prend pas plaisir en notre souffrance. Au contraire, il souffre avec nous. Lorsque nous souffrons, Dieu souffre avec nous. C'est lui qui nous dit que l'amour nous exige à pleurer avec ceux qui pleurent. Et lui, le premier, parce qu'il est amour. C'est lui qui a pleuré devant le tombeau de Lazare. Il sait ce que c'est de souffrir, mieux que vous et moi, car c'est lui qui a subi la souffrance de la croix, où il était déchiré en deux. Vous vous rendez compte? À ce moment-là, à la croix, Dieu lui-même était déchiré. Le Fils séparé du Père céleste, tout le poids de nos péchés tomber sur lui. Dieu sait ce que c'est de souffrir. Et pourtant, tout au long de la Bible, il ne partage pas notre perspective sur la souffrance, la perspective qui cherche à l'éviter à tout prix. Au contraire, pendant toute sa vie, Jésus chemine vers la souffrance, vers la croix. Et c'est sa parole qui dit en Romains 5, nous sommes fiers même de nos détresses, sachant que la détresse produit la persévérance. La persévérance, la victoire dans l'épreuve, et la victoire dans l'épreuve, l'espérance. Et puis, en 2 Corinthiens 4, même si notre extérieur se détruit, notre être intérieur se renouvelle de jour en jour. En effet, nos légères difficultés du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Un poids éternel de gloire. Comme l'apôtre Paul et comme Dieu lui-même, nous devons toujours chercher à voir notre souffrance à la lumière de l'éternité. Et n'oublions pas qu'ici, dans ce dernier passage, quand l'apôtre parle de ses légères difficultés, ce ne sont pas des petites choses, parce que c'est juste quelques versets plus haut où il dit « Nous sommes pressés de toutes parts, mais non écrasés, inquiets, mais non désespérés, persécutés, mais non abandonnés, abattus, mais non anéantis. Nous portons toujours avec nous dans notre cœur l'agonie du Seigneur, afin que la vie de Jésus soit manifestée dans notre cœur. » que la vie de Jésus soit manifestée dans notre cœur, pressé, inquiet, persécuté, abattu, l'agonie. Ce ne sont pas des petites choses. Mais à la lumière de la gloire éternelle, elles sont légères. C'est comme ça que ce même passage peut parler de ces choses comme légères. Et donc notre tâche n'est pas d'échapper à la souffrance dans cette vie, mais de vivre bien la souffrance quand elle nous arrive. De la vivre avec courage et grâce, nos yeux fixés sur l'éternité. Bien sûr, nous devons chercher à soulager la souffrance des autres, de nous-mêmes, quand nous pouvons dans cette vie. Mais lorsque ce n'est plus possible, lorsque la souffrance est là et Dieu ne l'enlève pas, nous devons alors chercher à vivre cette souffrance d'une manière qui est digne de l'Éternel. C'est-à-dire d'une manière qui nie pas sa profondeur, mais qui garde l'espérance en Christ quand même. Si vous lisez le livre de Job, vous verrez que Job ne nie pas sa douleur. Il va même jusqu'à questionner Dieu par rapport à sa douleur. Mais il ne maudit jamais. C'est ça la victoire. Finalement, Job finit en reconnaissant que Dieu est Dieu et lui, Job, ne l'est pas. Et c'est ça la clé de tout ce que nous venons de voir. C'est Dieu qui est Dieu. Et nous ne le sommes pas. C'est Dieu qui donne la vie, c'est Dieu qui la reprend. Notre cœur, notre âme, notre esprit lui appartiennent. Tout ce que nous avons vu tout au long de cette série de messages, tout revient à cette vérité. Nous sommes appelés à vivre selon les valeurs de Dieu, non pas pour gagner notre salut, mais parce que nous avons le salut. Nous lui appartenons. Nous sommes ses enfants et il est notre Père. Si vous avez quelque chose à dire à votre Père après ce message, parce que ce n'était pas un message facile, ce n'était pas un message facile à préparer, ce n'était pas un message facile à prononcer, ce n'était peut-être pas un message facile à écouter. Si vous avez quelque chose à apporter devant votre Père, je vous encourage à prier maintenant pendant le dernier chant. Et si vous aimeriez prier avec quelqu'un, je vous encourage à venir sur les deux côtés afin de prier avec moi-même, avec Jean-Serge, avec Monique. Quelqu'un sera là pour prier avec vous. Mais surtout, venant devant notre Père, celui qui nous a tissés, celui qui connaît nos jours, quelle que soit votre situation, il te connaît, il connaît ton nom. Et je termine alors avec Romains 14. En effet, aucun de nous ne vit pour lui-même et aucun ne meurt pour lui-même. Si nous vivons, c'est pour le Seigneur que nous vivons. Et si nous mourons, c'est pour le Seigneur que nous mourons. Ainsi, soit que nous vivions, soit que nous mourions, nous appartenons au Seigneur. En effet, Christ est mort et il est ressuscité. Il est revenu à la vie pour être le Seigneur des morts et des vivants. Amen. Levons-nous pour chanter.